Bonjour tout le monde, ça m'impressionne ce matin de... J'enlève mon masque, ça va ?
Oui.
Ça m'impressionne ce matin de pouvoir revenir ici. C'est vrai que ça fait un moment, je ne sais plus c'est quand la dernière fois où j'étais à cette chaire, mais je suis impressionné après tous les événements qu'on a vécu les uns et les autres ces derniers mois, mais on est content de se retrouver quand même. On est content de se retrouver. Certains m'ont demandé à avoir des nouvelles de ma fille, donc je vous remercie pour vos prières. J'ai une de mes filles, donc pour ceux qui ne savent pas, qui a chopé le Covid à son boulot le 15 février. Et donc elle est ce qu'on appelle en Covid long. Et à l'heure actuelle, donc après avoir réappris un certain nombre de choses, et je dis bien réappris, elle arrive aujourd'hui à nouveau à respirer normalement, elle a retrouvé l'équilibre et elle recommence à marcher doucement. Donc ça fait 9 mois et demi maintenant qu'on la voit évoluer petit à petit. C'est difficile de la voir marcher avec les bras tendus à la maison sans béquilles, ça fait bizarre. Et à l'extérieur, elle commence à marcher avec une seule béquille. Sinon, la plupart du temps, donc à l'extérieur, c'est encore avec le fauteuil. D'accord ? Donc, elle a 28 ans. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit des gens qui se moquent du Covid. C'est impressionnant de voir que dans certains cas, il y a quand même des séquelles qui sont relativement importantes. Donc, ça va mieux. C'est pas le top. Elle recommence à faire à manger une fois tous les 10 jours à peu près. Donc pour elle, c'est un effort. Et ce qui était le plus touchant, c'est quand elle a voulu un jour essayer de reconduire sa voiture. Donc elle s'est assise dans la voiture et elle avait la clé dans la main. Et elle a dit « Papa, qu'est-ce que j'en fais ?» Et c'est violent parce que bon, elle a conduit depuis l'âge de 20 ans ou quelque chose comme ça. Et on se dit, mais comment c'est possible d'en arriver là, quoi ? Donc, il fallait lui réexpliquer le fonctionnement des pédales, le fonctionnement des petits boutons qui sont sur son volant, enfin, etc. Alors que c'est sa voiture, enfin, etc. Donc, c'est tout ça, on a un petit peu de mal de pouvoir intégrer. C'est vrai que son cas est un peu particulier. Dans la mesure où non seulement il y a eu le Covid, et puis juste quand elle est rentrée de chez elle, quand je l'ai ramenée de chez elle, c'était donc le décès de sa maman, le décès d'Annette. Et c'est vrai que tout ça est difficile, et encore aujourd'hui, je pense que c'est difficile à gérer. Même si dans un autre temps, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait des transformations dans l'appartement pour essayer de retrouver un autre équilibre pour nous. C'était aussi une étape importante de pouvoir se dire bon, on refait un chez-soi qui va être différent. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le passé, mais ça veut dire qu'on construit un avenir, et un avenir qui forcément sera différent. Donc merci encore pour vos prières. Et voilà, le médecin avait pensé à un certain moment qu'elle pourrait réessayer son boulot avant les vacances de novembre, ce qui n'a pas été possible. Maintenant, il espère faire une réintégration après les vacances de Noël. Bon, à la grâce de Dieu, on verra. Ça me paraît encore très fragile aujourd'hui et on n'est plus qu'à 4 semaines. Alors, vous allez dire, 4 semaines, c'est long. Quand on a déjà vécu 9 mois et demi, 4 semaines, c'est plus si long. C'est plus si long. Voilà, c'est aussi la première fois de nouveau que je prêche à l'extérieur qu'à Villers. J'avais donc arrêté, j'ai arrêté un certain nombre de choses, dont notamment mes déplacements, et je ne suis pas allé voir même ma famille, la famille Longeron, que je n'ai pas vue sur place depuis très longtemps. Donc j'avais arrêté tous mes déplacements, et pour ceux qui me connaissent, j'avais même arrêté de faire des photos. Voilà, donc j'avais arrêté beaucoup de choses. Bon, on m'a encouragé à reprendre ce que j'essaie de faire par la grâce de Dieu. J'aimerais vivre avec vous quelque chose d'autre ce matin, donc avec la parole de Dieu. Je me suis aperçu qu'on passe énormément de temps à pinailler sur des mots à l'intérieur de la Bible. je me suis aperçu qu'on discute très longtemps sur des chiffres qu'on essaie de décrypter et pour lesquels on essaie de donner une signification. Alors, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau parce que j'ai un spécialiste des chiffres à une de nos études publiques. Alors, il aime bien, à chaque fois qu'il voit un chiffre, de pouvoir dire « Ah oui, mais dans la globalité, ça veut peut-être dire cela. » Et il faut se méfier des chiffres 6, enfin, etc. Jusqu'au moment où, pardon, je vais vous parler d'Ésaïe. Et je me suis rendu compte que dans Ésaïe, il y a 66 chapitres. Ça m'a un peu gêné, là, aux entendus. Qu'est-ce qu'on doit en penser, là? Heureusement qu'il n'y en a pas 666, hein. Mais je vais parler assez globalement ce matin, et j'aimerais vous dire donc que je continue dans ma logique de pouvoir approfondir la parole de Dieu en lisant un chapitre d'un livre de la Bible en suivant de la Genèse à l'Apocalypse, et après je recommence à la Genèse, mais je lis un chapitre par jour. D'accord? Que j'ai le temps ou que j'ai pas le temps, je lis. Je l'encourage très fortement et je dis souvent aux gens, plutôt que de vouloir essayer de tout comprendre ce que vous lisez, prenez le temps de lire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent même plus la Bible et qui, dans un aparté, peuvent vous dire « ça fait 3 mois que je n'ai pas ouvert la Bible. Heureusement, je vais au culte. » Est-ce que ça suffit pour nourrir? Ça, c'est une autre affaire. Ces derniers temps, je lis donc le livre d'Ésaïe. Merci pour la référence que tu as faite aussi à Ésaïe ce matin. En lisant le livre d'Ésaïe, j'étais obligé de revenir sur un certain nombre de bases. Ésaïe est un prophète qui va vivre dans une situation difficile pour le peuple d'Israël. Et il va donc laisser un certain nombre de prophéties pour ce peuple, pour le peuple de Dieu, pour l'avenir du peuple de Dieu. Et on sait que les prophéties, c'est un peu comme les circuits en montagne. J'ai fait de la montagne un petit peu, et quand vous montez en montagne, vous voyez le sommet, et quand vous êtes presque arrivé au sommet, vous voyez qu'il y en a un deuxième derrière. Puis après, vous voyez qu'il y en a un troisième, puis après, vous voyez que, bon, vous voyez que vous n'arrivez pas, quoi. Les prophéties, c'est la même chose. Vous croyez voir l'issue d'une prophétie et vous vous rendez compte qu'il y en a une autre derrière pour un autre temps qui va... Alors, je vais essayer. Je suis désolé, ça sera seulement affiché du côté là. D'habitude, je travaille avec 2 écrans, mais là, je n'ai pas réussi à le brancher correctement. Voilà. Ésaïe, donc, à partir des chapitres 40, Ésaïe va surtout nous annoncer des prophéties de consolation et il va nous annoncer le Messie. J'aimerais que vous puissiez quand même ouvrir vos Bibles. Et je dis dans l'église à Villers, vous pouvez ouvrir vos Bibles en papier, vous pouvez ouvrir vos téléphones. Vos Bibles dans le téléphone, c'est pareil, c'est la même Bible. Même si certains sont allergiques, je peux le comprendre. Mais je vis avec mon téléphone aussi. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Quelle version vous avez ?
Français courant.
Vous l'avez en français courant, très bien. Quelqu'un d'autre ? Alors je vais lire dans la seconde 21. Ésaïe 1, verset 9. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Il y a 2 choses qui sont importantes à l'intérieur de ce verset. La première, l'Éternel, le maître de l'univers, et la deuxième, conserver un faible reste. Je ne vais pas m'appesantir sur la deuxième partie, un faible reste, puisque, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de parler de manière assez globale. Ça me paraît important quand même de pouvoir mentionner cela. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible en français courant tout au début, si l'Éternel...
Si le Seigneur de l'univers.
Le Seigneur de l'univers. J'aurais aimé une autre version. Tu as une autre version?
Non, c'est la seule que j'ai J'ai la même que toi, je
dis. Tu as la même que moi, ok. J'aurais aimé que quelqu'un ait la Darby ou la Bible second. Non, vous ne l'avez pas. C'est pas grave, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà, alors je le mentionnais déjà tout à l'heure, je vais le redire donc rapidement. Paul nous a enseigné qu'il lui fallait enseigner tout le conseil de Dieu, et pour avoir tout le conseil de Dieu, pour ne pas passer à côté d'un certain nombre de passages qui nous paraissent trop durs, etc. L'important, c'est de pouvoir revenir à cette lecture donc régulière depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un jeune qui me disait dernièrement: mais écoute François, ça fait 40 ans que tu es pasteur, tu dois bien connaître la Bible par cœur. Et je dis: écoute, plus je la lis et plus je me rends compte que je la connais peu, et c'est pourquoi je prends le temps de la relire. Et j'ai pris le temps aussi de la relire avec des versions différentes. Je lisais avant la version la version Louis II qu'on avait traditionnellement. Après, je suis passé à la version Summer. Je lis à l'heure actuelle la S21, donc la seconde 21, et je vois qu'il y a des choses qui sont traduites légèrement différemment, et c'est là qu'on peut se rendre compte que on peut voir Dieu, on peut comprendre l'objectif de Dieu de manière différente. Ce qui me permet là de pouvoir introduire un mot que vous connaissez, c'est le mot métarécie. Qui n'a jamais entendu ce mot ? Ça me rassure, je me sens moins seul. Alors depuis plusieurs années, je suis aussi attaché à une chose, c'est à ce fameux métarécie. Métarécie, c'est la grande histoire racontée, synthétisée du plan de Dieu et de la vie ou de l'objectif de Dieu pour l'humanité. Le métarécie. En fait, il y a dans toute histoire, et notamment dans la Bible, il y a un grand récit qui va commencer depuis la création, depuis la Genèse, et puis qui va aller jusqu'à l'Apocalypse. Et en fait, quand on connaît ce métarécie, on va pouvoir, en lisant les textes bibliques, on va pouvoir toujours les raccrocher quelque part à ce métarécie en question. Le métarécie, j'ai découvert, avait toute son importance parce que ça nous permet de pouvoir éviter les erreurs de compréhension de la parole de Dieu, parce que ça va toujours se raccrocher à ce grand plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, et la vie justement est l'objectif que Dieu a fixé pour l'humanité. D'accord ? Je reviens encore à Ésaïe et à mon objectif en disant que aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Avent. Vous avez allumé les bougies, merci beaucoup. Nous sommes dans le temps de l'Avent, et dans le temps de l'Avent, normalement, on est là pour se réjouir de la naissance de Christ, se réjouir du plan de Dieu, de salut de Dieu pour nous. Mais, parallèlement à cela, c'est un petit peu difficile à l'heure actuelle de se réjouir complètement. Nous sommes en saison de pandémie. Et tout le monde croyait que, c'était fini. On allait revenir comme en 2019. Que tout allait redevenir comme avant. Et en fait, est-ce que tout est redevenu comme avant ? Non. 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 En fait, on est dans une situation bizarre. Je disais à une réunion du conseil d'église, je leur disais, j'ai l'impression d'être quelque part avec la situation un peu anesthésiée. J'ai l'impression de ne pas vivre comme d'habitude. J'ai l'impression de vouloir faire des choses et avoir peur de les faire. J'ai l'impression d'avoir le désir de rencontrer les gens et de me poser des questions. Est-ce que c'est sage que j'aille les voir ? On est dans cette situation qui est bizarre. Et la situation est encore plus bizarre quand je me rends compte que les églises aujourd'hui, si on fait le point, dans la majeure partie des cas, comme dans la vie associative, les églises ont perdu entre 30 et 50% de leur effectif. Et je ne parle pas seulement des petites églises, je parle de l'église en général. D'accord ? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans tout cela, il y a deux types de personnes, et je ne jette la pierre à personne, il y a deux types de personnes qu'on va voir beaucoup plus rarement. Ce sont des personnes d'un certain âge, très âgées je dirais, et qui tout d'un coup ont peur de la situation, ont peur de choper le virus en question. Et en fait, ils ont peur de l'extérieur. Je discutais avec une sœur de l'église qui a plus de 90 ans maintenant et qui me disait encore l'autre jour « Non François, je ne veux plus sortir. Je ne veux plus sortir. » En fait, ça fait presque 2 ans qu'elle n'est plus sortie. Et maintenant, elle s'est installée là, avec ses petits points de repère. Le médecin qui vient, la voisine qui fait les courses, enfin, etc. Elle vit là en autarcie. Elle donne même l'impression qu'elle ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. J'en ai marre d'écouter les infos parce que ça me bassine, des infos où on ne comprend rien. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Je ne veux pas y aller. Donc François, je ne viens plus à l'église. Étonnant. Donc, toutes les semaines, je vais mettre dans sa boîte aux lettres le message que j'ai imprimé et elle est très très contente de cela. On est dans une situation de marasme évident. On ne sait pas. Si vous voulez faire des travaux à la maison, je vous souhaite beaucoup de courage parce que pour trouver un morceau de bois, une plaque de placo, enfin, etc., on a l'impression que... on avait la certitude que ça venait de Chine, mais maintenant on a l'impression qu'il faut faire 3 fois le tour du monde avant que ça arrive chez nous. Et on vous dit, ah, vous voulez faire ce petit truc-là? Je pense que je ne pourrais pas le faire avant le mois de juin 2022. Non mais attendez, vous rigolez. Non mais j'aurai pas les pièces. Sans parler des prix qui augmentent, enfin, etc. Je vais pas nous replonger encore plus là-dedans. Je vois aussi dans l'église des gens qui ne viennent plus sont des jeunes. Les églises qui avaient le privilège d'avoir des jeunes, beaucoup d'églises se plaignent en disant mais on ne sait pas du tout où est passée la jeunesse. On ne sait pas. Disparu. Alors que ce soit les collégiens, les lycéens, voire les étudiants, on ne sait plus, disparu. Alors certains ont dit, ils se sont jetés sur Internet pour aller chercher, ils se sont jetés sur pas grand-chose. Je ne les retrouve pas toujours sur Internet non plus. Mais alors par contre, dans ce marasme ambiant, il y a des choses assez extraordinaires qui se passent, que je ne comprends pas, c'est que j'ai régulièrement des gens qui me téléphonent, qui m'écrivent, j'aimerais bien me faire baptiser. J'avais un gars, je ne savais pas comment me tenir par rapport à cette demande. J'ai un gars qui a pris contact avec moi, j'aimerais me faire baptiser, d'accord? J'essaye de savoir un peu qui il était. Alors, vous allez sourire un peu, malheureusement, c'est la réalité. Nicolas, ce fameux gars, me dit, ben voilà, je viens de l'Axou, d'un quartier assez difficile de l'Axou et je lui demande un petit peu son parcours spirituel, quoi. Tu veux te faire baptiser, mais pourquoi? Et il m'a dit ben écoutez pasteur, je suis allé en Alsace et j'ai passé plusieurs fois dans une église catholique protestante. Si, ah bon? Après 40 ans de ministère, j'avais jamais entendu ça. Et puis ensuite, il est passé dans une église, mais il ne savait pas quel genre, dans le sud de la France, etc. Puis, j'ai commencé à le questionner un petit peu, quand je l'ai vu, parce qu'on a pris rendez-vous, et il m'a dit, j'ai vu sur la vitrine, il était écrit baptême, j'ai envie de me faire baptiser. Est-ce que tu connais quelque chose de la Bible, de Dieu, etc. Il me dit, non, je suis athée. Aucune connaissance religieuse, aucune. Et il ne va sur Internet, alors famille déchirée, pas de boulot, il ne lit quasiment pas. Et je voulais lui faire passer quelques vidéos. Et il m'a dit, bah, c'est difficile parce qu'en fait, mon compte Internet, je l'utilise à partir du 2 de chaque mois. Et généralement, ça ne dure pas plus de 3 jours. J'ai épuisé mon forfait avec mes jeux. Donc, ça veut dire qu'entre le 2 et le 5, vous ne pouvez pas discuter avec lui. Il est plongé dans ses jeux. Puis après, voilà, tout s'arrête. Tout s'arrête. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La situation à l'époque d'Ésaïe n'était pas bien meilleure. Pourquoi elle n'était pas bien meilleure? Parce qu'en fait, le nord d'Israël était parti en exil par punition de la part de Dieu. Et puis, la Judée était sous l'emprise d'un certain Sennachérib Et donc, Ésaïe avait ça sous les yeux et c'était la véritable catastrophe. Alors, j'ai voulu puiser un petit peu plus loin et savoir quelles étaient ces prophéties que notre brave prophète Ésaïe nous avait laissées. C'est pourquoi j'aimerais vous poser la question là ce matin. Y a-t-il un passage dans Ésaïe que vous connaissez ? Y a-t-il un chapitre qui vous dit quelque chose dans Ésaïe et que vous pourriez dire « ça, je sais, c'est Ésaïe ». Vous ne serez pas puni. Hein. Alors, presque tout le monde, après Jean 3,16, va connaître Ésaïe 53. Parce qu'à Ésaïe 53, va nous rappeler en particulier la Sainte Cène, va nous parler de la mort de Christ 8 siècles auparavant, etc., avec une description très touchante. Y a-t-il un autre chapitre encore ? Je crois qu'on a épuisé nos ressources là. Parce qu'en fait, on ne connaît pas Ésaïe. Il n'y a que 66 chapitres. Alors, on ne le connaît pas vraiment. Alors moi, il y a toujours un chapitre qui m'a bouleversé. C'est le chapitre 58. Pourquoi le chapitre 58 ? Parce qu'il parle du jeûne. Pas des jeûnes, mais du jeûne. Et il parle du vrai et du faux jeûne. Chaque fois que je lis ce passage-là, franchement, ça me remet en question. Ça me remet en question. Alors, bon, je vous donnerai ma conclusion plus tard. Hein. J'aimerais donc m'arrêter quelques instants sur cette expression qui est mentionnée. L'Éternel, le maître de l'univers. En fait, je comptais sur toi, Christian, excuse-moi. C'était marqué quoi dans les anciennes versions ?
Le Seigneur de l'univers,
c'est ce que je disais. Oui, non, mais c'est...
Le Créateur, non ?
Non.
Désolé.
Ouais, c'est facile quand on est prof, hein. C'est ce qu'on dit. En fait, il était parlé de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. C'est comme ça qu'on connaissait, c'était l'expression qu'on connaissait. En fait, c'est dans deux versions différentes qu'on va le trouver. On va le trouver donc dans la Bible en français courant, et puis on va la trouver dans en second 21, l'Éternel, le maître de l'univers. Pendant 60 fois, il va être utilisé à l'intérieur de ce livre d'Ésaïe sur 249 citations dans l'Ancien Testament, puisqu'on ne va pas le trouver dans le Nouveau Testament. Un commentateur va ajouter... Le comité d'édition de la seconde 21 a effectivement jugé préférable de ne pas favoriser une interprétation militariste de la Bible, qui de plus n'a pas lieu d'être, en invitant le lecteur à considérer que les armées dont il était question, c'était en réalité la création. Le mot « maître » a été ajouté dans des cas où le français n'autorisait pas la simple mention de l'univers. Bon. Depuis que j'ai relu Ésaïe sous cette forme, j'étais personnellement très touché. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça m'a fait du bien de pouvoir relire cette expression. Dans un monde dans lequel il y a une pagaille partout, Dieu reste maître de la situation. Dans cette année qui est difficile, je dois me dire que Dieu reste maître de ma situation, de notre situation. Et ça fait du bien de savoir que notre Dieu est Père, il est au contrôle de nos vies dans un monde où on se demande qui gère quoi. La pandémie, elle a tout mis à plat. Mais il y a aussi un certain nombre de mouvements qui essayent de semer un peu plus la cisanie. Dans le temps de l'Avent, on avait des choses qu'on faisait d'une manière habituelle. Les non-chrétiens s'ingénient aujourd'hui à pouvoir essayer d'éliminer ce qui peut faire appel à Dieu partout où il passe. Vous avez entendu parler, comme moi, qu'à Besançon, la maire écolo a demandé que Joyeux Noël n'existe plus. Et vous savez ce qu'elle a écrit dans les rues ? Vous n'avez pas lu ça ?
Non,
alors, il y a des guirlandes, et donc avant, sur les guirlandes, c'était marqué « Joyeux Noël ». À un certain moment, et dans beaucoup d'endroits, on a mis « Joyeuse Fête ». Et maintenant, elle a demandé que soit écrit, et ça l'est, « Fantastique Décembre ». Je me suis demandé si elle allait supprimer aussi la fête de l'Aïd. Ça sera pas enregistré, ça. Hein. Alors, il y a des maires qui suppriment aussi les crèches. Le maire de Bordeaux, il veut même supprimer le sapin de Noël. Et il a dit, nous ne mettrons pas des arbres morts sur la place de la ville, notamment sur la place Péberland. Vous gardez le souvenir de cet arbre mort que l'on faisait venir tous les ans. Ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. C'est une belle excuse. Bon, moi, le sapin de Noël, qui en est ou qui en est pas, ça ne me change pas grand-chose. Mais on voit dans leur tête la volonté d'éliminer tout ce qui les gêne, et notamment la pensée de Dieu, de Noël, ça les gêne terriblement. Ça les gêne terriblement. Nous, nous gardons la certitude d'un Dieu qui gère réellement la situation. La pandémie, elle nous rappelle notre petitesse face aux éléments destructeurs, notamment par le Covid, hein, destructeur de santé, de vie. L'être humain, il se croyait tout puissant, avec une médecine qui répond à tous les problèmes. Moi, je suis très impressionné par ce que fait la médecine. Hein. J'ai un beau-frère qui a été opéré d'une hanche, parce qu'il ne pouvait plus marcher. Hein. Il a été opéré d'une hanche, et puis peu de temps après, on lui a opéré la deuxième. Et peu de temps après, il m'a dit, ah bah tiens, j'ai tout rangé mon bois à l'intérieur de mon garage. T'as rangé ton roi avec deux hanches en ferraille ? Tu dis oui, pourquoi ? C'est un problème. Non, c'est pas un problème. Donc aujourd'hui, comme je fais changer mes pneus neige, je fais changer mes hanches. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de plus plausible. 2020 a prouvé que la médecine ne pouvait pas tout. Qu'on est confronté par rapport à des maladies qu'on ne connaît pas et qui a fait disparaître un certain nombre de personnes de cette terre. Et il y a un spécialiste qui a dit « La médecine ne guérit pas, elle soulage. » Est-ce que c'est Hippocrate qui a dit ça? Je ne sais plus. Je n'étais pas là ça, en son temps. C'est vrai que du temps de Naaman, et c'est Jésus qui va en parler, parce que quelquefois on dit « Dieu guérit et guérit tout le monde comme on veut », mais dans la réalité, Dieu a ses raisons, ça ne se passe pas comme cela, pas au moins comme on voudrait. Et Jésus va dire, mais du temps de Naaman, les lépreux en Israël n'ont pas été guéris, Naaman l'a été. Ça fait réfléchir, hein ? Ça fait réfléchir. Alors ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller un peu plus loin avec... Voilà, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, donc... À l'époque d'Ésaïe, c'était aussi le bazar. Des chapitres 40 à 57 d'Ésaïe, on va trouver un certain nombre de prophéties. Et ces prophéties, je ne vais pas les analyser, mais je vais les regarder rapidement, parce que je vois que ça tourne. On va les regarder rapidement. Pardon. C'est pas donné à chacun. Et on va remarquer des choses qui me paraissent importantes. Je mentionnais tout à l'heure que c'était la Bérézina à cette époque-là en Israël et que c'est pas grave. Il y en a suffisamment, oui. C'était la Bérézina en Israël comme c'est la Bérézina à l'heure actuelle dans le monde. En fait, je vous ai répertorié ce qui se passe à l'intérieur des chapitres donc 40 à 66. Et vous allez remarquer une chose. C'est qu'à partir du chapitre 40, on parle de consolation, et à partir du chapitre 49, on va parler du Messie, et on va parler des prophéties concernant la venue de Christ. Consolation par le pardon et la paix de Dieu, consolation par les attributs de Dieu, consolation par le Saint d'Israël, consolation par le serviteur de l'Éternel, consolation par le rétablissement d'Israël, consolation par Cyrus, loin de Dieu, celui qui a eu l'onction, consolation par la chute des idoles de Babylone, consolation par la chute de Babylone, consolation par le retour d'Israël après son châtiment. C'est impressionnant, hein ? Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'on ne parle que de la consolation dont nous avons besoin aujourd'hui, mais on va se rendre compte aussi que la consolation va arriver pas tout à fait de la manière par laquelle on s'y attend. Alors, consolation par le pardon et la paix de Dieu, ça on comprend, par les attributs de Dieu on comprend, mais tout d'un coup on voit, au sixième point, consolation par Cyrus. Cyrus était un roi. Cyrus était roi de Perse. Et quelquefois, je me suis demandé, mais comment Dieu peut-il utiliser le roi de Perse pour permettre la consolation d'Israël? Quand on approfondit un petit peu, on se rend compte que ce roi Cyrus a effectivement défendu le peuple d'Israël pour que le peuple puisse se reconstruire. Incroyable! Alors je me dis aujourd'hui, qui est Cyrus? Je ne sais rien. Qui est ce Cyrus dont l'Église aurait besoin pour avoir cette consolation? Un personnage à qui Dieu veut donner l'onction pour que tout d'un coup nous puissions aussi, humainement parlant, avoir la consolation. Je ne sais pas. La deuxième partie, donc le Messie comme serviteur à partir donc du chapitre 49, le Messie comme vrai disciple, le Messie comme juste roi, le Messie comme sacrifice d'expiation pour le péché, donc c'est le chapitre 53, le Messie comme rédempteur et réparateur, le Messie comme évangéliste mondial, le Messie comme juge des méchants. Ça vous dit quelque chose tout ça? Ça vous parle? C'est impressionnant, hein? En fait, je pensais qu'Ésaïe était plongé et plombé dans ses affaires d'Ancien Testament, d'Israël, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui avait été donné au peuple d'Israël pour de nouveau lui donner l'espérance, c'est la même chose qu'on va trouver pour nous aujourd'hui. On va lire le chapitre 49, les 11 premiers versets. Je ne vais pas en faire l'exégèse, on va juste le lire. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Allusion aux enfants dans les psaumes. Tu m'as dit, tu es mon serviteur Israël, par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que je sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront. Des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai, je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frappera plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Ésaïe était encouragé au travers de ce passage que Dieu lui avait demandé d'écrire. Mais de quoi parlait ce passage? De qui parlait-il? Du peuple d'Israël? De qui parlait-il? En fait, ce passage parle de Christ et il parle de la venue de Christ. Un de ces passages qu'on appelle un passage messianique qui parle du Messie. En fait, quand il dit la bouche pareille à une épée tranchante, à quoi vous pensez? Hébreux 4? Christ est la parole qui est une épée à double tranchant, une flèche aiguë cachée dans son carquois, je le disais tout à l'heure. Psaume 127, verset 5, en fait, on parle de la descendance du Fils qui est mentionné là. On va parler de la lumière des nations, et c'est Jean qui va reparler de Jésus comme la lumière pour les nations. Et donc il va apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. On parle du Messie. Ce chapitre 49 va parler du Messie, c'est clair. C'est clair. C'est Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, versets 16 à 20, entre autres, qui va confirmer que ces passages donc, du chapitre 40 presque jusqu'à la fin, mais que ces chapitres vont réellement parler de Christ. Et c'est Jésus qui va dire lui-même, dans un de ces textes qu'il était en train de lire, chapitre 61, cette parole que je suis en train de lire a déjà commencé à se réaliser. Ésaïe, relisez Ésaïe, il parle de la venue de Christ. Et je crois que nous, de la même manière qu'Ésaïe, nous devons garder la même certitude que les promesses que Dieu a faites, il les a accomplies pour un certain nombre, et les autres, il va encore les accomplir. Ésaïe 49, verset 13, Versets 13 à 16. Ciel, réjouis-toi, terre, cri d'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie. En effet, l'Éternel console son peuple et il a compassion des plus humbles de ses membres. Sion, c'est-à-dire Jérusalem, disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. « Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. » Vous n'avez pas l'impression que Dieu nous a oubliés dans ce marasme dans lequel on est aujourd'hui? Alors pensez à cela. Une femme peut-elle oublier son fils? Elle peut. Elle peut pas. Hein? Elle peut pas. Elle peut pas. Et Dieu va dire que même si c'était imaginable, Dieu ne pourrait même pas le faire. Jésus est le Messie serviteur. Chapitre 49, vrai disciple. Chapitre 50, juste roi. Chapitre 51, 52, sacrifice d'expiation pour le péché. Chapitre 52, 53, rédempteur. 54, évangéliste mondial. 55, juge sur les méchants. 56, Jésus va revenir. Alors c'est un frère qui nous a dit dimanche, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Lui disait qu'un évangéliste avait mentionné il y a déjà plusieurs décennies qu'à l'époque on était à minuit moins 5. Et lui a posé la question, est-il minuit moins 3, minuit moins 2? Personne ne sait. Quelquefois, on a perdu patience pour ce qui concerne le retour de Christ. Et peut-être que des fois, on a pensé que le retour de Christ ne se ferait pas parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on nous dit que Christ va revenir et rien ne s'est produit. Mais si une femme ne peut pas oublier son fils, Dieu ne peut pas oublier ses enfants et il ne nous a pas oubliés. La pandémie nous a poussés dans nos retranchements. Et elle nous oblige à nous questionner sur des questions fondamentales. Et nous, quand la pandémie a commencé à nous laminer, qu'est-ce qui reste à l'intérieur de nous? Est-ce que les promesses de Dieu, elles restent encore? Est-ce que les certitudes du retour de Christ, elles restent encore? Qu'est-ce qui reste? Dieu donne la consolation à ton cœur par grâce, Dieu donne le salut par amour, mais Dieu t'appelle à vivre du vrai avec lui, du vrai avec lui. Je vais passer rapidement, quelqu'un se souvient des slogans de chez Auchan, du magasin Auchan? Je ne fais pas de publicité là. Non, ça vous dit quelque chose, les publicités Auchan? Ah, c'est... Pardon. Ah si. Bah, écoute, je vais t'en rappeler une, parce que bon... on a quelques décennies, nous ensemble, n'est-ce pas, hein? Auparavant, c'était Mammouth. Et Mammouth écrase les prix. Alors, je vais vous montrer comment les choses ont évolué, pour voir comment ça évolue dans nos pensées. Ensuite, c'était un prix hard discount, mais moins cher. Bon, ça, c'est difficile. Après, c'est vivons mieux, vivons moins cher. Ça commence à me rappeler quelque chose. Rien ne vous empêche de mettre plus cher ailleurs. Et 2000-2006, vous vous souvenez quand tout le monde disait qu'on passait de 90, donc on changeait de millénaire, que les ordinateurs allaient exploser, que, enfin, etc. C'était la vie, la vraie. Un peu plus tard, c'était « Et vous, la vie, vous l'aimez comment ?» Et en 2018, c'était « Auchan, et la vie change. » Et vous savez ce que c'est en 2021 ? Ça montre exactement où nous en sommes aujourd'hui, même nous les chrétiens. Parce que c'est « Auchan, avec plaisir. » Et aujourd'hui, on est revenu à l'époque où on recherche qu'une chose, c'est le plaisir. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Incroyable, hein ? Aujourd'hui, on recherche tout ce qui peut me faire plaisir, muni de la sacro-sainte liberté. On veut vivre de manière irresponsable, le fameux carpe diem, qui voulait dire « donc cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Et ça, je retrouve sur Facebook, sur beaucoup de comptes de chrétiens. On ne veut plus penser à l'avenir. On ne veut plus y réfléchir, on ne veut plus s'y préparer, on veut juste vivre aujourd'hui. Vous avez un compte Facebook ? C'est écrit quelque part, ça ? Non ? Si, si, il y en a qui ont Facebook. Ils viennent de l'avouer, je l'ai vu. Nous, est-ce que nous croyons encore à ses certitudes, à ses promesses que Dieu donne, sa promesse de rester avec nous, sa promesse de ne jamais nous oublier, et la promesse d'un Christ qui va revenir et qui va nous emmener auprès de lui, la promesse que quand on meurt, on va ressusciter et on passe l'éternité avec lui. Est-ce qu'on a gardé ces choses-là pour nous, et est-ce qu'on voit cela encore pour l'avenir ? J'aurais voulu vous parler du chapitre 58, mais le temps est passé. J'aimerais terminer avec cela et vous garder ce papier-là dans vos Bibles, vous vous en souviendrez, pas pour la pub de Auchan, hein, c'est, Auchan vous pouvez découper, ça c'est pas grave, mais ça montre le changement de mentalité quand même. Hein. Quand même. Moi ce que j'aimerais, j'ai osé vous montrer ce matin qu'en relisant la parole de Dieu avec des versions différentes, on va découvrir d'autres facettes de Dieu. Et moi le fait de découvrir que Dieu règne sur l'univers m'a fait un bien énorme dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Dieu gère l'univers, même si à certains moments je me suis posé des questions. Ça, c'était important. La deuxième chose que je vois, c'est que dans ces chapitres que je vous ai mentionnés assez rapidement, c'est que je vais voir tout le plan de Dieu. D'accord ? Il a donné la consolation, mais il a donné Christ pour notre salut. Il y a eu le sacrifice, il y a le pardon. Il y a, etc., etc. En quelques chapitres, vous allez découvrir Dieu comme Père, Dieu comme Sauveur, Dieu comme Tout-Puissant, Maître de l'univers. Pour ce temps de l'Avent, plutôt que de faire comme les autres années, sauf si quelqu'un vous a déjà dit que vous deviez faire autrement, mais moi ce que je vais vous proposer, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du chapitre 40, relisez Ésaïe, chaque jour un chapitre, et vous reverrez la préparation pour Noël d'une autre manière. Vous connaissez Luc, vous connaissez Matthieu, vous connaissez tous ces passages qui nous parlent donc de la venue du Christ, mais allez plonger dans l'Ancien Testament, dans le marasme dans lequel on est, imaginez-vous être à la place de Moïse, d'Ésaïe, il voyait ce marasme. Mais il a gardé toujours les choses essentielles, à savoir ma consolation n'est qu'en Dieu et ma vie, mon objectif, mon vrai but de vie, il est toujours dans le Seigneur. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis une chose. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans un chapitre, ce n'est pas grave. Lisez jusqu'au bout. Lisez jusqu'au bout. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est riche en consolation. Merci parce qu'elle est riche dans les promesses pour l'avenir. Merci parce qu'elle est riche aussi d'une meilleure connaissance de toi et de la relation que tu veux avec nous, avec moi, d'une manière personnelle. Permets, Père, que je sache tous les jours, réellement, prendre du temps pour relire ta parole et me laisser imprégner par elle pour avoir en moi tout le conseil de Dieu. Permets, Père, aussi, permets-moi d'être à l'écoute du monde, de ce qui se passe autour de moi. Seigneur, pourquoi des gens aujourd'hui cherchent à se faire baptiser? Quelles sont leurs véritables raisons? En fait, je ne veux pas le savoir. Je te demande simplement, permets que ces gens te rencontrent, te connaissent et vivent avec toi pour l'éternité. Seigneur, dans les moments où le trouble est aussi à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous, aide-nous, Seigneur, à rechercher en toi la paix. Une paix que personne ne peut donner, que le monde ne nous donnera pas, que la médecine ne nous donnera pas, que la politique ne nous donnera pas. Mais une paix profonde qui vient de toi et que personne et jamais ne pourra nous enlever. Amen. Amen.